Hop là, Boker Tov, les coulames. On revient dans notre étude du livre de Orot de Maran Arav Kouk, le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kouk, et nous sommes toujours dans la deuxième partie du livre Orot qui s'appelle Amilchama. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons évoquer la question de l'importance de prendre part à la vie politique ou pas. Et quand on parle de guerre, évidemment, vous comprenez bien que la guerre, c'est la politique. C'est-à-dire, qui peut faire la guerre? Uniquement l'entité qui a l'autorité du peuple. C'est-à-dire que toi et moi, on se dispute, c'est pas une guerre.
La guerre, c'est une chose trop importante pour la laisser aux militaires.
C'est très vrai. C'est très vrai. Donc, est-ce que c'est un idéal de faire partie, j'allais dire, de la vie politique ou pas? C'est vrai et à l'intérieur du peuple juif et aussi à l'international. Encore une fois, tout ça, ça prend comme base. Je veux dire, si les choses sont évidentes, pourquoi est-ce que le Rav Kouk est obligé d'en parler? Ben, simplement parce que pendant 2000 ans, ce n'était pas du tout une évidence. On n'était pas là. Sur le plan politique, il n'y avait personne. Et donc, le Rav Kouk va essayer de nous expliquer qui que quoi, pourquoi. Azavnu et a politica a olamit. Matai azavnu et a politica a olamit. Donc toi tu dis Khurban Abayit.
Non, un peu après.
Un peu après, alors on peut effectivement, on peut jusqu'à l'époque de Bar Korva, oui. On a tenté une véritable grosse révolte politique. Oui. Mais on va dire que voilà, effectivement, même si on va voir des nécoudotes ici et là, hein, des subresauts, merci, ici et là, jusque, on va dire, jusqu'au, allez, 10e siècle, des fois, des petits trucs, des fois, tu entends parler d'un juif qui a fait quelque chose, mais de manière générale, effectivement, après le 2e siècle, après la défaite de la guerre de Bar Korva, c'est terminé. La dimension politique du Ham Israël n'est plus là. Elle n'est plus là jusqu'à quand? Bah, jusqu'au 19e siècle. On commence à retrouver une dimension politique. D'accord? Maintenant, nous dit le Rav Kouk, « Azavnu et a politica a olamit, mi ones. » Mais c'est « mi ones »
Des forces majeures.
C'est, on n'a pas voulu. C'est pas nous qui avons décidé de partir, c'est les Romains qui sont venus, qui nous ont exilés, qui nous ont massacrés. C'est-à-dire que nous, on aurait voulu avoir une place en tant que peuple. Les Romains ne nous ont pas laissés. Donc, Azavnu et a politica a olamit, mais ones. Mais regardez ce que dit le Rav Kouk. Sheyesh bo ratson penimi. C'est vrai, c'est pas de notre faute. Ah, quelque part, c'est ce qu'on voulait. Ah, c'est caché, merde. Quoi, Béhémet, on voulait quitter la scène internationale, la scène politique?
On n'était pas apte.
C'est-à-dire qu'on n'était pas apte?
On n'était pas apte à tenir le peuple au niveau politique. On avait perdu notre...
Ah, si tu parles au niveau...
Cette ardoute.
Ah, on avait perdu la ardoute, tu dis. Et il faut une ardoute pour...
Il faut... C'est une base, normalement, il faut...
Donc toi, tu dis volontairement, on ne voulait plus prendre part à la vie internationale.
On ne voulait plus, on ne pouvait plus.
Ah, c'est pas pareil.
Oui, on ne pouvait plus.
Ah, c'est ce que le Rav Kouk dit, il te dit. Azav de l'état politique à Olamit, mais honnête. Aval, sache, c'est vrai, c'est pas nous, c'est les Romains qui nous ont mis dehors. Mais sache que quelque part, il y avait Ratson Penimi là-dedans.
Parce qu'à Yerushalayim, ils ne voulaient plus combattre les Romains. Une partie, et c'est pour ça qu'on aura brûlé les Marsanim avec tout que ce soit le blé, les légumes et tout ça. Et c'est là où il y a eu la révolte. Ils ont commencé même à manger le cadavre de leurs enfants.
Non, mais attention.
Et après, ils voulaient. Parce qu'il y avait une bonne partie qui voulait plus faire la guerre.
Attends, viens, on met les choses dans l'ordre.
Ouais.
Tu fais référence à un événement tragique. Bien sûr. Mais cet événement ne se passe pas au début de la guerre. Je t'explique. Lorsque la révolte est lancée contre les Romains, il y a des gens qui prennent part, il y a des gens qui ne prennent pas part. Mais dans un premier temps, on ne ressent pas le besoin de pousser les gens à la révolte. Pourquoi ? Parce que de manière générale, dans le peuple, les gens suivent la révolte. C'est lorsque les greniers, lorsque les Romains vont arriver à Jérusalem, c'est-à-dire qu'ils ont presque gagné déjà, que là, les Canaïm vont brûler les réserves de nourriture des entrepôts de Jérusalem.
Parce qu'ils ne voulaient pas combattre.
Parce qu'à Jérusalem, on ne voulait plus combattre. Mais pourquoi on ne voulait plus combattre à Jérusalem ? Parce qu'à partir du moment où l'armée romaine elle était déjà en train de faire le siège de Jérusalem, c'était un peu tard. C'est au niveau réel politique, ça devenait compliqué. Et pourquoi ils ne voulaient pas se battre ? Parce qu'ils pensaient que tenir le siège, c'était stratégiquement plus intelligent que de se battre contre les Romains. Parce qu'il y avait suffisamment de nourriture à Jérusalem pour tenir des années. Alors qu'eux, ils n'auraient jamais pu tenir un siège des années. C'est-à-dire ? Mais... si tu veux, ça, c'est pas qu'on a voulu partir. C'est qu'on a voulu tenir contre les Romains. C'est machu acher. Là, on te dit, non, on a voulu, quelque part profondément, on est bien content que les goïms nous aient enlevé la possibilité d'être présents sur la scène politique.
Est-ce qu'on peut ajouter peut-être une remarque, une sorte de distanciation La galoute a été un moment, je pense que tout le monde le reconnaît, c'est un moment jugé, qui a permis de, peut-être de former le peuple, puisque Pharaon le distingue comme ça. Et qu'au niveau politique, les Yéhoudines ont peut-être eu une approche différente de la politique.
Okay.
Savoir Yosef, je ne sais pas, en Égypte, d'Israélie en Angleterre, Menes France en France. Abraham Abraham en Espagne, etc. Donc, ils ont, dans une certaine mesure, été au contact.
Tu fais référence à des individualités. C'est-à-dire qu'on a eu, dans toute l'histoire juive, des individus qui avaient des postes politiques. C'est Naron. Mais ce ne sont que des individus qui ont eu des postes politiques chez les goïms. Il n'y avait pas une autonomie politique juive.
Oui, non, parce que ce sont des aides démocratiques. Où chaque
non, ce n'était pas démocratique à l'époque.
Un décret Crémieux, par exemple, qui a permis aux Juifs...
Si tu te rappelles ce que j'ai dit, le décret Crémieux, c'est quand ?
42.
C'est-à-dire qu'on est, on est avant...
Avant la Shoah.
Oui. D'accord ? On est... J'ai dit tout à l'heure qu'on a quitté la politique depuis... le 2e siècle jusqu'au 19e. Donc, on est, le décret Crémieux, on est en train de revenir sur la scène politique. Même si, là encore, il ne s'agit pas, le décret Crémieux va donner la citoyenneté aux Juifs d'Afrique du Nord, mais il ne s'agit pas, là, de dire que les Juifs, maintenant, sont les patrons de la France. Et même si tu me dis que Léon Blum, qui est devenu le chef de la France, 1936, le Front Populaire, ce n'est pas Am Israël qui dirige la France. Il se trouve qu'il y a un juif qui a été élu. C'est-à-dire, c'est pas pareil.
Il a subi en tant que juif.
C'est pour ça que je suis très content que finalement Trotsky ait été battu. Parce qu'il aurait été un pourri autant que Staline. Seulement, tout le monde aurait dit que c'est parce qu'il était juif. C'est-à-dire, donc c'est bien qu'il ait été battu. Quoi qu'il en soit, donc c'est pas ça. Ça, ce sont des individualités. Qui, parce qu'ils avaient beaucoup de talent, beaucoup de mérite, machin, ils ont réussi à gravir les échelons des endroits où ils étaient. C'est vrai, mais ce n'est pas l'État. Quand tu me parles de Don Yosef Nassi, c'était le duc de Naxos et c'était le premier ministre de l'Empire Ottoman. C'est machou. Oui, Nahon, mais ce n'est pas le peuple. Alors, il a fait énormément de bien pour le peuple juif. Mais ce n'est pas Am Israël qui a retrouvé sa place. C'est-à-dire, ça a été qui le plus grand homme politique de l'exil pour le peuple juif. Pendant l'exil, la personnalité qui a été la plus grande personnalité politique.
Boucher ?
Non, pendant l'exil.
Ah.
Qui était un des hommes les plus riches du royaume, qui était chef d'état-major, qui était grand vizir. Non, Abraham, il n'était que ministre des Finances. Mordechai. Ça peut le faire, mais sauf que Mordechai, c'est justement l'époque où on sort de l'exil. D'accord ?
On
sort de l'exil de Babylone.
C'était dans quelles années ?
C'était dans les années 1100.
1100.
Au milieu du Moyen Âge.
Et on sort Moshé. De l'exil.
Non, on est en plein dans l'exil.
En plein.
Non, j'ai dit, non, Mordechai, on sort de l'exil de Babylone.
Ah, de Babylone.
Le plus important.
Oui.
Rachid.
Rachid n'était pas un homme politique.
Non, même pas, c'est pas un homme.
J'ai dit quel était le plus grand homme politique du peuple juif pendant l'exil.
Je sais pas, le cousin riche.
Oui, pas politique.
C'est récent.
Rabban, il n'était pas politique. Politique. C'est vrai que c'était le médecin personnel de Salahaddin, de Saladin. Il n'était pas au gouvernement. C'était le médecin du sultan. C'est sûr qu'il était certainement au courant de pas mal de choses. Mais ce n'était pas officiellement un homme politique. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un truc très intéressant, c'est qu'une fois que Saladin... Aken? L'homme Arnou Arba? L'homme Arnou Arba? אני חושב שאז אמרנו ארבע כדי שיהיה מחמש עד חמש וחצי מנחה. אני לא... אין לי בעיה, כן?
לא,
לא, לי זה בסדר. בגנתך
זה בסדר?
ארבע נראה לי. בסדר? כתבי? תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אותו דבר. נו? Donc, il y a un truc quand même très intéressant, c'est qu'une fois que Salahaddin, il a réussi à conquérir la terre d'Israël de la main des...
Croisés,
merci. En l'an 1187, Salahaddin va battre les croisés en 1187 dans le fameux combat de Karné Khitim, Krav Karné Khitim. Karné Khitim, bien connu, c'est une région bien connue de la terre d'Israël, qui se trouve, bien sûr,
dans le nord.
Dans le nord, effectivement.
Dans le nord.
Oui, dans le nord. Pas très loin de la montagne du Arbel, et de, donc de Tibériade, pas très loin non plus. Juste à côté de la tombe de ce que appellent les Druzes Nabi Shoaib, ou alors en hébreu, Yitro. D'après les Druzes, c'est là-bas qu'il y a la tombe de Yitro. C'est-à-dire, en tout cas, là-bas, il y a eu la victoire de Salahaddin. Incroyable, mais juste après la victoire de Saladin, il y a une oda, une annonce officielle que Saladin permet aux Juifs de revenir en Israël et à Jérusalem. Peut-être que le fait que son médecin personnel était le Rambam a joué dans la décision. On n'en sait rien. Mais peut-être. Bon, en tout cas, ça ne fait pas du Rambam un homme politique. Rabotai, le plus grand homme...
Une femme politique, la Kaina.
Quoi
Une femme politique, la Kaina. Le Maghreb. Tu sais, Kaina, c'est une femme, on dit juive,
okay.
Qui s'est soulevée contre...
Une reine.
Oui, Kaina. Okay. Et donc, qui s'est révoltée contre les hordes musulmanes qui venaient de...
Ouais, quelle année
d'Arabie Saoudite.
De quand on parle ?
Kaina, c'est qu'à l'époque, Kaina, je ne sais pas, à quelle époque c'était 1400-1500, je ne sais pas.
Ouais. Connaissez pas. Alors, sans vouloir porter atteinte à l'honneur de la Kaina, je pense que ça n'arrive pas aux chevilles de Rabbi Shmuel Annagid. Tu vois, Tu nous l'as inventé, celui-là. Tu nous l'as inventé. Non. Des fois, on ne l'appelle pas Rabbi. On l'appelle juste Shmuel Anagid. Anagid. Moi, je l'appelle Rabbi Shmuel Anagid. Alors, Rabotai, demandez au Rav Google, je vous en prie. Rabbi Shmuel Anagid, non seulement de sa génération, c'est le plus grand maître de la Torah de sa génération. En plus de ça, je vous ai dit, il est le chef des armées de tout l'Empire arabe. C'est-à-dire, et il est également grand vizir. Ok ? C'est pas mal.
Les deux. Et de quelle origine ?
1050, 1100.
Quelle origine ?
De l'Espagne.
L'Espagne.
Espagne,
non ?
Espagne, Espagne. Espagne. Hein ?
Espagne.
Oui. Bah, le droit d'être d'Espagne. D'Espagne, d'Afrique du Nord, enfin, ils sont un peu partout hein, à ce moment-là. Ça a l'air. Ça va ? Tu demandes au brave Google ?
Ouais. Ouais,
et il a dit la même chose ?
Devant.
Il est d'accord ?
Oh, c'est écrit en arabe.
Ah ben voilà, c'est bon.
Non.
Mais si tu mettais le français, ils
ont compris. Abou Asrak Asma'ali Ben Anar. Anar, là. Déjà, de 1993 à 1056.
Tu vois.
Il est Richonné à
Richonné. Pourquoi tu dis que les.
Au Marchoré.
Après, je le dis, parce qu'ils le disent.
Mais Chouraré.
C'est pas reconnu.
Ah! On a, au niveau de la Massorète Israël, on n'a pas vraiment une Massorète claire que Yitro il a enterré là. Ça a l'air. C'est pas impossible, mais. Au Sheken, au Shelo. Chez eux, Yitro a une place très très importante.
Chez les
Druzes.
Chez les Druzes.
Chez les Druzes. Yitro. Bekitsour, donc tout ça pour dire que. Azavno est un politica, Olaf.
Il
a dit
c'est ce que tu as dit. Il était.
C'est pas bien comme nom?
Non, non, vous êtes comme tout le monde était.
Quoi?
Il était Tsar à Otsar et ensuite Tsar à Tsava. Ou Bessie à Carrière
de tout l'Empire arabe.
Chimesh, comme tu as dit, qui est vizir à Gadol.
C'est bien, je suis très heureux de savoir que je ne dis pas de bêtises. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
Malcolm Brown est un fils d'Ondi, d'ailleurs.
Évidemment, mais évidemment.
Il est né en 993. Et il est décédé en 1056 à l'âge de 63 ans.
Ah, tu vois, j'ai dit 1050. Non. C'est pas mal.
Il n'a pas été assassiné alors.
Non.
Il connaît son histoire, notre.
Mais ça a l'air. Non, mais c'est, non, mais au-delà de ça, d'abord, j'ai une BD sur lui pour les enfants. D'abord. Mais au-delà de ça, en deux volumes. Mais j'avoue que les dessins sont assez vieux. C'est-à-dire, c'est pas. C'est les enfants, ils ont du mal avec ce genre de BD-là. Maintenant, Khoutz Mizé, Zéchachou, de savoir qui a été Gdolé Olam.
Il était le grand général de l'armée.
Oui.
Quelle armée?
Bah, de l'Empire arabe.
L'Empire
arabe. Ça a l'air. Non, c'est bon. C'est l'époque des conquêtes arabes extraordinaires. Voilà. 10e siècle, 11e siècle. C'est bon? Bon, en tout cas, tout ça pour dire que quand on est parti en exil, on a eu des individus qui avaient des places politiques, mais en tant que peuple, on n'était plus là. Et donc, nous dit le Rav Kook, Azavnu et apolitika olamit, mi ones, aval sheyesh la ratson penimi. Quand est-ce qu'on voit ça? Par exemple, 40 ans avant la destruction du temple, nous avons pris une décision.
Premier ou deuxième?
Deuxième. Nous avons pris une décision extrêmement révélatrice.
Qui
quoi?
Qui part.
Et il va où?
Sfat,
Non.
Yavne.
Non. T'avais bien commencé. Effectivement, 40 ans avant la destruction du temple, le Sanhedrin sort de l'Ishkat Agazit, c'est-à-dire sort de sa salle de Sanhedrin au Beth Amikdash, et va s'installer Bachanouyot, dans les magasins. Les magasins, c'est-à-dire... en contrebas du Beth Amikdash, dans ce qu'on appelait à l'époque Wall Street, la rue du mur, en bas du côté. Ça, il y avait là-bas des Chanouyot. Et bien le Sanhedrin va s'installer là-bas. Ok ?
Aujourd'hui, le village
c'est pourquoi ?
Non ! Aujourd'hui, c'est quand tu vas te balader au Merkaz Davidson, dans les fouilles du sud, il y a des Chanouyot, c'est là-bas. Hein ? Pourquoi ils vont s'installer là-bas ? Eh bien, parce qu'ils prennent une décision. D'après la halakha, qu'est-ce que ça change hein
40
ans avant. Donc dans les années plus ou moins 30. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, au niveau de la halakha, qu'est-ce que ça change? Que Sanhedrin soit au Lishkat Agazit ou qu'il soit 150 mètres plus loin. Eh bien, ça change que halakhiquement parlant, on n'a plus le droit de la doun d'Ine Nefashot. On n'a plus le droit de... Enfin, le Sanhedrin n'a plus le droit de juger des cas de vie ou de mort.
Pourquoi?
Parce qu'on n'est plus Bamakom, dans le Makom où Akadosh Baruch Hu il fait résider sa présence, donc on a pu l'autorité de décider de prendre la vie de quelqu'un. Maintenant, pourquoi ils font ça? Il dit qui nitrabu aposhim kolkar, que si on avait dû juger les cas de vie ou de mort, on aurait dû tuer tous les jours. Donc, on ne veut plus être capable de pouvoir le faire.
D'un autre côté, c'est un piège.
C'est laisser le mal gagner.
Ben
non, parce que tu sais qui c'est qui va s'occuper de les tuer ? Les Romains. Les Romains, ils sont là. Donc, c'est les Romains qui vont faire ça. Ils adorent faire ça. C'est-à-dire ? Donc, ça veut dire qu'ils te disent, on n'est plus en capacité de... La société est pourrie. Donc, eh ben voilà, on sort de ça, on sort du Misraël. Ok, donc, Azavno et ta politica olamit, miones, aval sheshbo ratson penimi. Ad matai. Ad asher tavo et meushara. Jusqu'à ce qu'arrive un temps bienheureux. Sheye efshar lenael mamlacha, belo risha ou barbariot. Jusqu'à ce que vienne un temps où on puisse diriger une nation sans le mal et la barbarie. Ben, comprenez bien qu'à l'époque des Romains, où donc on est parti de la scène publique internationale et politique, tu ne pouvais pas être un homme politique bien. Ça ne marchait pas. Ben, parce que la société de l'époque, elle était d'une barbarie absolument incroyable. Ça se massacre partout, ça coup d'État partout, ça corrompt partout. C'est comme ça, c'est la société de l'époque. C'est le monde qu'a légué le monde romain. Je veux dire, quand tu vois comment est né l'Empire romain, qui va façonner l'idéologie occidentale, et finalement, c'est l'Empire romain qui va façonner toute l'idéologie occidentale. Eh bien oui, mais quand tu regardes... Évidemment. Évidemment. Le christianisme, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as fait attention, mais quand j'ai dit que 40 ans avant la destruction du temple, on est sorti de l'Ishkatagazit, tu as compris que c'est...